Vous écoutez, on lit pour vous.
À la découverte des langues autochtones, un texte de Marie-Hélène Proux, paru le 30 avril 2025 dans L'Actualité. Peu de Québécois s'étaient jusqu'ici donné la peine d'apprendre des notions d'Innu, de Cree ou d'Abénaki. Mais la réconciliation avec les premiers peuples fait naître un intérêt pour leur langue. François Thérien fait partie des oiseaux rares au Québec qui comprennent des bouts de phrases quand l'artiste inuit Elisapi chante ou Mati Atanarsimat, sa populaire adaptation en Inuktitut de la chanson Heart of Glass du groupe Blondie. Tout ça grâce à un coup de foudre, non pas amoureux, mais linguistique, un soir d'avril 1973, alors que ce fonctionnaire maintenant retraité assistait pour la première fois à une performance de Katajak, le chant de gorge inuit, sur la scène de l'aréna Paul Sauvé à Montréal. J'étais venu pour mon idole Johnny Mitchell, qui participait avec d'autres vedettes à un spectacle bénéfice en soutien aux Autochtones, se rappelle-t-il. Mais quand la voix des deux chanteuses de Pouvirnitouk a résonné dans le silence de l'amphithéâtre pourtant plein à craquer, je suis tombé sur le cul. Un demi-siècle plus tard, François Thérien n'a rien perdu de son émerveillement pour la culture de ceux qui peuplent le nord du Québec depuis 3000 ans. Au point de s'acharner à apprendre l'Inuktitut, dont il maîtrise fort bien la grammaire, à défaut de pouvoir le parler couramment. L'élève studieux continue de se perfectionner, notamment en s'efforçant de lire la version en caractère syllabique Inuktitut du roman Sanaak de l'autrice et sculptrice nunavikoise Mityarjouk Atassi Apaaluk. Ça me fascine qu'un peuple de chasseurs-pêcheurs installé dans un environnement extrêmement hostile où répondre aux besoins de base était un défi continuel ait pu élaborer un langage aussi riche et précis pour exprimer les émotions les plus fines, dit-il. Ce sont de grands romantiques. En Inuktitut, le sentiment de peur, par exemple, se décline en de multiples mots distincts selon qu'il désigne la crainte d'un animal, de la nuit, du froid, d'un événement futur ou encore celle d'être réprimandé, de recevoir un coup, de revoir quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. J'en ai pour le reste de ma vie à apprendre ces subtilités. Même si ce dada demeure niché, l'apprentissage de l'une des 11 langues des premiers peuples de la province gagne en popularité depuis quelques années auprès des Québécois. Par exemple, au cours des 9 dernières années, le nombre d'étudiants crédits, qui comprend les inscriptions à temps partiel, est passé de 200 à 1600 à l'École d'études autochtones de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, UQAT, dont les deux tiers sont des non-autochtones. Les programmes de premier cycle offrent des cours d'introduction aux langues algonquiennes, l'une des trois familles linguistiques des autochtones, un cours de premier niveau de Cree et deux niveaux d'Anikinabé. Cette augmentation reflète la sensibilité accrue de la population à l'égard des problèmes vécus par les premiers peuples, juge Hugo Asselin, directeur de l'École d'études autochtones. Les scandales qui ont éclaté depuis 10 ans ont ouvert les yeux de bien du monde, dit-il, notamment les allégations de sévices sexuels et d'abus de pouvoir de la part de policiers de la Sûreté du Québec de Val-d'Or envers des femmes autochtones. La parution en 2019 du rapport de la commission d'enquête vient, qui portait sur la violence et la discrimination subies par les Autochtones dans certains services publics, a aussi été un catalyseur d'intérêt, selon Hugo Asselin. Une bonne partie de nos élèves sont des policiers, des infirmières, des enseignants soucieux d'améliorer leurs pratiques, observe-t-il. Apprendre à dire quelques phrases en Anishinaabe ou en cri n'est pas une obligation pour exercer leur métier, mais certains y voient une manière de créer des liens. Comme à l'UQAT, l'intérêt des Allochtones pour les quatre cours d'Innu offerts au Centre de langue de la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal est aussi en croissance, à tel point que des intéressés doivent passer leur tour chaque session. Les 32 places du cours de premier niveau instaurées il y a 8 ans trouvent rapidement preneur et 3 niveaux plus avancés ont été ajoutés dans les dernières années. À l'automne 2024, l'établissement a également démarré un cours d'Abénaki. Je sens la volonté des Québécois de mieux nous connaître, surtout depuis l'indignation soulevée par le décès de Joyce Echaquan il y a 5 ans, remarque Yvette Mullen, une Innu originaire de la communauté d'Equanitchit, sur la côte nord, qui enseigne sa langue depuis 30 ans, notamment à l'Université de Montréal. L'Atikamekw Joyce Echaquan est morte à 37 ans au centre hospitalier de Lanaudière après avoir filmé des infirmières qui l'insultaient. C'est comme si on était réapparu sur la carte, dit Yvette Mullen. Certaines communautés se montrent néanmoins frileuses devant la récente curiosité des Blancs pour leur langue, nuance la professeure et chercheuse à l'Université de Montréal. La peur de l'appropriation culturelle et le sentiment d'avoir été suffisamment dépossédé depuis 400 ans expliquent peut-être cette méfiance, selon elle. Le désir de rapprochement a pourtant des retombées positives, estime Yvette Mullen, qui fait partie des instigateurs d'un dictionnaire virtuel français-innu de plus de 29 000 mots. J'incite toujours mes étudiants allochtones, qui côtoient des membres des communautés, à parler en innu aux enfants parce que ça contribue à renforcer le sentiment de fierté des jeunes à l'égard de leur langue, malheureusement de plus en plus délaissée au profit de l'anglais et du français. L'ergothérapeute Sébastien Provencher ne rencontre pour sa part que des sourires lorsqu'il sort humblement son innu de maternelle à ses patients de Pessamit, Equanitchit et Pakwashipi, sur la côte nord. Le trentenaire, originaire de Laval, s'y rend toutes les 2 semaines depuis 2018. Les Innus sont étonnés et contents que je veuille faire des efforts, même si certains regrettent de ne plus pouvoir parler dans mon dos sans que je comprenne. Ils ont beaucoup d'humour. En vérité, ils n'ont aucune inquiétude à se faire, car même après 4 niveaux d'Innu et un stage en communauté organisé par Yvette Mullen, la bonne volonté de l'ergothérapeute se heurte à la grande complexité de cette langue dite agglutinante, comme l'est aussi l'inuktitut. Un seul mot est souvent l'équivalent de toute une phrase en français, avec une racine, généralement un verbe, classe lexicale, qui constitue 75% des mots en innu, à laquelle on colle des préfixes ou des suffixes pour ajouter des informations supplémentaires. Par exemple, il mange une énorme quantité de nourriture en un repas, se dit « apichish tikwanepushu ». Le féminin et le masculin n'existent pas. Les adjectifs non plus. Les noms sont plutôt animés ou inanimés, ces catégories ne distinguant pas forcément le vivant de l'inerte. Un cadavre, Chi Pai est animé, mais une fleur, Wapikun, est inanimée. La conjugaison des verbes suit une autre logique qu'en français, avec entre autres un temps pour parler de ce qu'on a vu en rêve et un temps pour dire ce qui nous a été raconté, mais qu'on n'a pas soi-même vécu. On ne peut pas faire de traduction directe, comme on le ferait avec l'anglais. Il faut passer par des chemins nouveaux, sortir des règles qu'on a intériorisées, explique Sébastien Provencher. Un exercice exigeant qui donne néanmoins accès à un univers empreint de descriptions nuancées, à l'instar de l'Inuktitut. Ainsi, la traduction de « rivière » comporte plus de 100 entrées dans le dictionnaire virtuel d'Innu Aimun, dont un mot pour désigner une rivière droite, rectiligne, et un autre pour parler d'une rivière où se trouvent des passages formés par des îles. Apprendre cette langue a changé ma manière de concevoir le territoire que nous habitons, en plus de me donner des clés pour comprendre un peu mieux ce peuple voisin qu'on ne connaît pas vraiment. C'était « À la découverte des langues autochtones », un texte de Marie-Hélène Proux, paru le 30 avril 2025 dans l'Actualité.
Entre choc et espoir, la quête d'un diagnostic. Un texte de Guillemette Depréval, paru le 13 mai 2025 dans Ombre et Lumière. Pour les parents confrontés à l'attente d'un diagnostic pour leur enfant, l'identification du handicap puis l'annonce résonne douloureusement. Si la science tente de repousser toujours plus loin les secrets de la génétique, les familles doivent apprendre à vivre avec l'incertitude. Lorsque les médecins décident de prendre l'appel afin de creuser un peu plus profond, c'est là que l'appel bute sur quelque chose. De dur, de rare, de redoutable. Camille Fauré vient de publier « Un enfant pas comme les autres ». Elle et son mari ont appris que leur aîné, Aaron, était atteint d'une paralysie cérébrale lorsqu'il avait 2 ans et demi. Nous n'avions pas trop envie de creuser, par peur de recouvrir un peu plus nos cœurs déjà ensevelis, mais surtout de prendre le risque de découvrir le pire. Malgré tout, nous étions réalistes et nous savions que pour qu'une maison reste sur pied, l'étape du décaissement était inévitable. Car c'est dans ces tranchées souterraines que se glissent les fondations. Alors, nous avons mis nos bottes les plus hautes, retroussé nos manches et pris nos pelles. Prêts. Prêts à savoir. Prêts à retirer les couches d'incertitude. Les mots imagés de cette Toulousaine de 31 ans s'expriment volontairement à tâtons. Sa façon de décrire ce temps du diagnostic, pétri d'espoir et de crainte, rejoint l'expérience de nombreuses familles en quête d'une réponse face au handicap de leur enfant. Simple retard ou handicap avéré? Les parents se souviennent toujours de nous, reconnaît Lucide, la pédiatre Françoise de Courson. Ce médecin a dirigé durant 10 ans un centre d'action médico-sociale précoce, CAMPS, à Paris. Ces établissements visent à prendre en charge au plus tôt des problématiques de handicap chez les enfants âgés de 0 à 6 ans qui présentent des difficultés ou des retards dans leur développement. La professionnelle en a vu passer des parents déboussolés et démunis, envoyés par leur médecin généraliste ou leur pédiatre lorsqu'ils ont constaté des retards, selon une grille précise d'étapes de neurodéveloppement. Entre autres, si un enfant ne tient pas sa tête à 4 mois, ne marche pas à 20 mois, ou ne parle pas à 2 ans, tous ces signes doivent alerter, même si chaque enfant est différent, précise Françoise de Courson. Certains ont un simple retard dans les acquisitions et vont bien, mais il s'agit de ne pas majorer le retard constaté. Tous les handicaps ne se détectent pas rapidement, comme c'est le cas pour la trisomie 21, souvent dépistée in utero, avec les conséquences éthiques qui s'ensuivent ou quelques jours après l'accouchement. Entre de longs délais d'attente pour des consultations, variables selon les départements et la complexité de certains troubles neurodéveloppementaux, il est difficile de parvenir à un diagnostic précoce. Celui de l'autisme est posé en moyenne entre l'âge de 3 et 5 ans. La paralysie cérébrale, première cause de handicap moteur de l'enfant, est, elle, diagnostiquée entre l'âge de 2 et 5 ans. Fin 2022, la Fondation Paralysie cérébrale France a lancé le programme de recherche Ensemble pour la détecter de manière fiable avant l'âge de 6 mois. Violence à l'annonce du handicap. D'autres initiatives vont dans le bon sens. En 2019, ont par exemple été mises en place les plateformes de coordination et d'orientation, PCO. Elles ont pour objectif de permettre aux familles d'avoir accès à des soins et une rééducation pour leur enfant âgé de 0 à 12 ans le plus tôt possible, sans attendre le diagnostic complet, pour éviter une accumulation des retards. Inévitable revers de cette prise en charge plus précoce, le mot « handicap », évoqué très tôt, se révèle parfois inaudible pour les parents. C'est très violent de leur parler si rapidement de handicap, de maison départementale des personnes handicapées, admet Françoise de Courson. Si la cause de ces retards n'est pas identifiée, la pédiatre propose aux parents d'explorer la piste génétique. Certains refusent, note Françoise de Courson. Mais nommer les choses est très important. Ne pas savoir peut nourrir une grande culpabilité pour les parents. Les recherches génétiques permettent parfois de constater que c'est juste la faute à pas de chance. Annabelle, mère d'Aimé, jeune fille née polyhandicapée, a vécu cette ambivalence. Après plusieurs tests et une IRM non concluante, la piste génétique a été privilégiée. Une première salve d'examen n'a donné aucun résultat. Cet inconnu ne m'a pas dérangé, confie la mère. Comme Aimé n'était pas mise dans une case, je n'avais pas la tentation de la comparer avec d'autres enfants ayant un syndrome identique. Quand Aimé a eu 3 ans et demi, les généticiens trouvent finalement qu'il s'agit d'une mutation sur le gène HNRNPH2. Elle était la 7e dans le monde à en être porteuse, précise Annabelle. Aujourd'hui, ils sont plus de 100. Une page se tournait. Jusque-là, l'absence de diagnostic m'allait plutôt bien. À mes yeux, Aimé était unique. Mais cette annonce a eu 2 points positifs. D'une part, on allait enfin arrêter les tests. D'autre part, nous savions que nous n'étions pas porteurs de la malformation génétique, ce qui était rassurant pour notre fils et ses cousins. Face à l'attente d'un résultat, par la densité émotionnelle qu'elle provoque, l'annonce des résultats est à soigner. Françoise de Courson garde hélas en mémoire des annonces chaotiques de diagnostic. Un jour, un kinésithérapeute m'a prévenu qu'un laboratoire avait contacté directement une maman que j'accompagnais, dont le fils présentait des retards de développement, pour lui dire qu'ils avaient repéré une anomalie génétique. C'était très violent. J'ai rappelé tout de suite cette maman pour lui proposer d'en parler tranquillement. psychologue clinicienne et auteur d'une thèse sur le sujet du diagnostic, Bettina Beaujard a pu enregistrer de nombreux médecins au moment de délivrer un résultat à leurs patients. Quelques heures après le rendez-vous, « je prenais un temps pour revenir sur l'entretien », explique-t-elle. Systématiquement, la réponse était « ça s'est très bien passé ». Mais dès qu'on creusait un peu, ces professionnels reconnaissaient que leur annonce pouvait s'améliorer et se clarifier, car la génétique est un domaine pointu. Généticien à l'Institut Jérôme Lejeune, Pierre-Yves Maillard en est pleinement conscient. Dans l'émotion, je constate bien que les patients retiennent finalement peu de choses de tout ce qui leur est évoqué. Il est important de leur proposer de se revoir et de répondre à leurs questions. Lui s'efforce d'utiliser des images simples. J'explique l'ADN comme un long fil de laine enroulé sous forme de 23 pelotes que sont les chromosomes. Sur ce long fil, il y a plein de petites lettres qui sont autant de variations génétiques. Si de nets progrès dans la recherche sont indiscutables, le docteur Pierre-Yves Maillard insiste sur l'humilité dont doit se parer la science. Toute recherche n'entraîne pas de résultats. Caroline Nourry, qui raconte l'histoire de sa fille Julia, polyhandicapée mais sans diagnostic, au micro du podcast « La lumière d'une rencontre », tente par les mots d'apaiser cette incertitude. Ne pas connaître la maladie, ne pas savoir, contribue aussi à accepter la réalité de son enfant, à accepter l'inacceptable, sans renoncer à avancer et à garder espoir, avance-t-elle. C'est une forme de sagesse. Une prise de distance avec notre société qui nous intime de tout contrôler. Non, je ne connais pas le nom de la maladie de Julia, mais est-ce que cela fera de moi une meilleure mère pour mon enfant que de le savoir? Je n'en suis pas certaine. C'était, entre choc et espoir, la quête d'un diagnostic, un texte de Guillemette de Préval, paru le 13 mai 2025 dans Ombre et lumière.
Des livres vivants comme antidote aux préjugés. Un dossier de Rima El-Khoury, paru le 4 mai 2025 dans la presse. Au Québec, les personnes qui reçoivent de l'aide financière de dernier recours constituent le groupe social le plus stigmatisé. Pour combattre les préjugés à leur endroit, une équipe de recherche de l'UQAM lance le 5 mai un projet original de livre vivant mettant en vedette des personnes en situation de pauvreté. Notre chroniqueuse Rima El-Khoury les a rencontrés en avant-première. Ça peut arriver à tout le monde. Paresseux, profiteurs, maudits BS, les personnes qui reçoivent des prestations d'assistance sociale se font souvent traiter de tous ces noms. Cela n'a malheureusement rien d'anecdotique. Au Québec, c'est le groupe social le plus stigmatisé, me dit la psychologue communautaire Janie Houle, titulaire de la chaire de recherche sur la réduction des inégalités sociales de santé, RIS, de l'UQAM. Il n'y a que les politiciens qui ont une cote d'appréciation aussi basse que les personnes assistées sociales. Lorsque, pour les besoins de leur étude, des sondeurs désignent ces mêmes personnes comme des BS, leur score chute encore davantage. Ce qui montre que les mots que l'on utilise pour présenter des gens influencent notre perception. Liste des groupes sociaux par ordre d'appréciation. Liste dressée à partir de l'étude Landry, N. et Hall, 2021. Représentation médiatique et opinion publique de l'assistance sociale au Québec. Nouvelles pratiques sociales. 1. Les Québécois. 2. Les Canadiens. 3. Les gays et les lesbiennes. 4. Les gens sur l'assurance chômage. 5. Les immigrants. 6. Les féministes. 7. Les personnes assistées sociales. 8. Les gens sur le bien-être social, les BS. 9. Les politiciens en général. C'est intolérable, ces préjugés-là, tonne Janie Houle, non seulement parce qu'ils charrient des mythes blessants et humiliants pour les personnes concernées, mais aussi parce que cela nuit à l'adoption de meilleures politiques publiques. Des citoyens qui perçoivent les personnes assistées sociales négativement risquent d'être moins enclins à soutenir des politiques plus équitables pour elles. Nous, on est convaincus que les préjugés de la population contribuent à maintenir le statu quo par rapport aux politiques d'assistance sociale, souligne la professeure. Pour venir à bout de ces mythes, l'équipe de la chaire RIS lancera officiellement le 5 mai un remarquable projet de livre vivant dans le cadre d'un atelier intitulé « Vers une société plus juste ». L'antidote anti-préjugé proposé par la chaire RIS est a priori tout simple, s'asseoir et échanger avec les premiers concernés. C'est une solution qui a fait ses preuves. Des décennies de recherches ont montré que ce qu'on appelle la stratégie de contact est l'un des meilleurs remèdes contre les préjugés. Janie Houle, titulaire de la chaire de recherche sur la réduction des inégalités sociales de santé de l'UQAM, explique « Quand des gens ont la chance de rencontrer d'humain à humain, d'égal à égal, une personne qui vit une condition qui est marginalisée, si le contact a une certaine durée dans le temps, ça déconstruit les préjugés. » Dans le cadre de ce projet, 5 personnes qui reçoivent de l'aide financière de dernier recours ont reçu une formation afin de témoigner en tant que livre vivant. Elles ont ensuite été invitées à présenter un chapitre de leur vie devant un groupe de participants. L'étude de faisabilité a montré que le remède fonctionnait, si bien que le gouvernement a décidé de l'inclure dans son 4e plan de lutte contre la pauvreté afin de le déployer partout dans la province. L'objectif est de former près de 70 livres vivants dans toutes les régions du Québec. Pierre Cardinal, père chercheur membre du comité de gouvernance de la chaire RIS, a été un pilier de ce projet qui s'inspire du concept danois des bibliothèques vivantes. Souffrant d'un trouble d'anxiété généralisée, il a entendu parler pour la première fois de cette approche, déjà utilisée pour combattre les préjugés en santé mentale à l'Institut universitaire en santé mentale. Je me disais, moi, je ne serais jamais capable de faire ça. Je suis beaucoup trop timide. Avec ma phobie sociale et tout ça, je n'y arriverai pas, raconte l'homme de 65 ans. Finalement, il s'est lancé et il a adoré. Ça a été un coup de foudre. Réaliser que ça peut arriver à tout le monde. Pour des bienfaits anti-préjugés durables, piquer une jasette avec une seule personne appartenant à un groupe stigmatisé ne suffit pas. Il faut plutôt que les participants soient exposés à une diversité de témoignages à divers moments. Pour ce projet, on a mis sur pied un atelier de 2 séances de 2 heures chacune. La première porte sur les causes pouvant mener une personne à demander de l'aide de dernier recours. La deuxième aborde les conséquences que ces personnes vivent au quotidien et les changements dans les politiques publiques qui permettraient d'améliorer leurs conditions de vie. La séance inclut aussi un exercice de budget où les participants sont appelés à voir très concrètement comment ils pourraient vivre avec les sommes que reçoivent les prestataires d'assistance sociale. Vous écoutez Des livres vivants comme antidote aux préjugés, un dossier de Rima El-Khoury, paru le 4 mai 2025 dans la presse. En échangeant avec au moins 3 livres vivants par atelier, les participants voient que différents parcours forcent des gens à se tourner vers l'aide de dernier recours. Ils voient aussi que ça peut arriver à tout le monde de vivre avec un problème de santé qui t'empêche d'aller travailler, explique Jenny Hull. Si chaque histoire est unique, les obstacles liés à des problèmes de santé mentale sont prédominants pour plusieurs d'entre eux. Bien que les témoignages puissent être bouleversants, l'atelier ne se veut pas pour autant un cours magistral déprimant sur la pauvreté, souligne Pierre Cardinal. Lors des formations données aux futurs livres vivants, il leur disait « Ayez du plaisir ». Oui, on raconte des choses difficiles de notre vie qui ont rapport avec la pauvreté. Mais ce n'est pas un psychodrame pour autant. On ne veut pas faire pleurer les gens. Dans l'échange, il y a du plaisir à se raconter et à le faire pour une bonne cause. Il faut savoir que les personnes en situation de pauvreté sont des partenaires à part entière de l'équipe de la chaire RIS, un peu comme dans le modèle de Montréal du partenariat patient qui est de plus en plus recommandé dans le milieu de la santé et des services sociaux. On reconnaît leur statut de personne experte de vécu, ayant des savoirs uniques qui sont utiles tant à l'élaboration de politiques publiques de réduction des inégalités qu'à la réalisation de recherches portant sur ce sujet. Cette reconnaissance vaut de l'or pour ces experts de vécu habitués à être invisibilisés dans les débats publics. Ce projet a été pour moi une source d'épanouissement continuel. Ça a été extraordinaire. On a été bien accueillis partout, raconte Frédéric Maillot-Houd, 58 ans, qui a conservé précieusement les mots d'appréciation que lui ont laissés des participants. Dans les médias, aux nouvelles, tu n'entends jamais parler de pauvreté. Des fois, c'est une petite phrase et c'est tout. À un moment donné, c'était beaucoup sur les personnes en situation d'itinérance, dit Lynn Bélanger, 63 ans, qui s'est elle-même déjà retrouvée sans abri. Il n'y a pas d'aide, dit-elle. Ça n'avance pas. Il faut faire de quoi? Et c'est le but de ce projet que le monde écoute et sache c'est quoi vraiment. Qui aurait intérêt à découvrir les histoires de ces livres vivants? Quiconque souhaite ouvrir un espace de discussion inclusif pour mieux comprendre la réalité de ces personnes. À qui ça profite? Ultimement, à tout le monde. Car en changeant le regard que l'on porte sur les personnes assistées sociales, on comprend que les causes profondes des inégalités sont structurelles et politiques et non individuelles. D'où l'importance de jeter notre catalogue de préjugés pour miser sur des politiques publiques plus justes. Les sociétés qui l'ont compris gagnent au change, rappelle Jenny Hull. Elles se portent mieux tant sur le plan de la santé, de l'économie, que de la cohésion sociale. Tout le monde gagne à vivre dans une société plus équitable, même les plus riches. Confidence de livres vivants. Qu'est-ce qui amène une personne à devoir demander de l'aide financière de dernier recours? Dans le cadre de l'atelier de sensibilisation vers une société plus juste, des livres vivants sont invités à répondre à cette question. Pierre Cardinal, 65 ans. À partir de 2008, une série d'événements m'ont amené à faire une demande d'aide de dernier recours. J'ai perdu ma mère, de qui je m'occupais quotidiennement depuis plusieurs années. Ensuite, j'ai été expulsée de mon logement. J'ai retrouvé un nouveau logement. J'y ai été cambriolée. J'ai eu un accident de bicyclette et j'ai failli y passer. Puis, j'ai perdu mon emploi parce que je n'allais pas assez bien. Tout ça a fait en sorte que j'ai eu des diagnostics en santé mentale, troubles anxieux généralisés et troubles dépressifs majeurs. Lynn Bélanger, 63 ans. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai deux maladies qui sont invisibles, la fibromyalgie et le trouble de personnalité limite. C'est ce qui fait que les gens ont souvent des préjugés. Parce que ça paraît pas. Il y a quelques années, quand on me demandait « Tu travailles pas? » Je disais « Non, non, je reçois des rentes d'invalidité. » Ce qui est vrai. Mais l'autre partie, que je recevais l'aide sociale, je ne disais pas. Je disais que j'étais invalide. Alain-Antoine Courchaine, 50 ans. Ce qui m'a amené à faire une demande d'aide de dernier recours, c'est un problème de santé mentale, la bipolarité. Trouver un emploi, pour moi, ce n'est pas un problème. C'est de le garder. C'est vraiment des montagnes russes émotionnelles qui font que, des fois, je suis en manie, des fois, je vais tomber en dépression. Je peux être super productif à un certain moment donné. Le lendemain, je compense. Si je porte depuis longtemps un nœud papillon, c'est pour lutter contre les préjugés. Frédéric Maillot-Houd, 58 ans. Quand j'étais jeune, je voulais être écrivain, poète, cinéaste, acteur. Finalement, avec la maladie mentale qui m'est tombée dessus, mes hospitalisations qui ont été douloureuses à des moments clés, je n'ai pas pu poursuivre mes études universitaires. C'est un sujet de peine pour moi. Finalement, en faisant mon livre vivant, je me suis rendu compte que les études de sociologie que je n'ai pas pu poursuivre, je les ai faites autrement, avec les groupes communautaires auxquels j'ai beaucoup participé depuis 28 ans. Robert Roussel, 53 ans. Je suis né avec un manque d'oxygène à la naissance. À l'école, j'avais des problèmes d'apprentissage. Travailler dans les médias, c'était mon rêve. Mais on dirait que même si tu essaies d'avoir ta place dans la société, des fois, t'as pas le niveau de scolarité demandé. J'ai pas de secondaire 5. J'ai essayé de faire des cours aux adultes, mais ça n'a jamais marché. Je m'implique ici, à Montréal, pas juste à la chaire RIS, mais avec d'autres organismes dans mon quartier. C'était Des livres vivants comme antidote aux préjugés, un dossier de Rima El-Khoury, paru le 4 mai 2025, dans la presse.
Comment sécuriser son téléphone avant de passer la frontière? Un texte de Brian X. Chen du New York Times, paru le 12 mai 2025 dans La Presse. Quand l'auteur de ces lignes partira pour l'Asie cet été, l'iPhone restera à la maison. À la place, il aura un autre téléphone sans aucune de ses applications habituelles comme Instagram, Slack et Signal. Il ne se connectera même pas à sa messagerie professionnelle. On peut voyager avec un téléphone jetable, un burner dans le jargon, ne contenant aucune donnée personnelle ou professionnelle qui pourrait être vue par des tierces personnes, en particulier les douaniers américains. Depuis les années 2010, le gouvernement américain a le pouvoir de fouiller les appareils électroniques personnels, téléphones, ordinateurs et tablettes, des voyageurs à la frontière. Ces inspections se multiplient, même si elles demeurent relativement rares. En 2024, les douaniers américains ont effectué environ 43 000 fouilles d'appareils électroniques contre 38 000 en 2023, d'après les chiffres officiels. Selon Hilton Beckham, commissaire adjointe aux douanes et à la protection des frontières, moins de 0,01% des voyageurs voient leurs appareils fouillés. Ces fouilles, précise-t-elle, sont menées dans la recherche de contenus liés à la contrebande et au terrorisme ou pour vérifier l'admissibilité des visiteurs. Mais depuis peu, des voyageurs ont été refoulés à cause de données trouvées dans leur téléphone, comme des photos d'armes à feu et des publications sur les réseaux sociaux. Le plus inquiétant dans ces fouilles, c'est que l'État peut cibler qui bon lui semble, déplore Esha Bandari, avocate à l'American Civil Liberties Union. On nous signale des fouilles plus agressives à la frontière, visant notamment des avocats qui bénéficient du secret professionnel et des gens considérés comme dissidents. Bref, les règles sur l'entrée aux États-Unis n'ont pas changé, mais la fréquence des contrôles semble augmenter. Vacanciers et voyageurs d'affaires doivent donc réfléchir aux données que contiennent leurs appareils. Évaluer les risques. Commencez par réfléchir à qui vous êtes, à votre profession et à ce qui se trouve dans votre téléphone et vos autres appareils. Conseille Jeremiah Grossman, expert en cybersécurité. Un citoyen américain à la retraite qui a dans son téléphone des photos de vacances et des textos avec ses amis du club de lecture n'a probablement pas à s'inquiéter. Mais l'étudiant étranger, ayant des données sur sa participation à des manifestations contre le gouvernement, pourrait avoir des ennuis. Si les douaniers avaient accès au contenu intégral de votre téléphone, auriez-vous un problème? Demande M. Grossman. À partir de là, évaluez votre risque et choisissez une approche. Risque faible? Utilisez un code d'accès et supprimez certaines applications. Si vous n'êtes que modérément préoccupé, désactivez les données biométriques, empreintes digitales et reconnaissance faciale. Utilisez uniquement un code d'accès pour déverrouiller votre appareil. S'en tenir au code d'accès peut procurer un avantage aux citoyens américains, car si un douanier peut prendre le téléphone de la personne fouillée et le placer devant son visage pour l'ouvrir, il est juridiquement plus difficile de l'obliger à communiquer son code d'accès, note l'avocate Esha Bandari. Mais les titulaires de visas et les touristes arrivant aux États-Unis peuvent être refoulés s'ils refusent de se conformer, ajoute Mme Bandari. Il est donc utile de supprimer toute application contenant des informations pouvant poser problème, comme Instagram, Signal ou X. Pour désactiver Face ID sur un iPhone, ouvrez l'application Réglages, appuyez sur Face ID et Code, entrez votre code d'accès et désactivez le bouton Déverrouiller l'iPhone. Pour les téléphones Android, la procédure varie selon le modèle. Mais en général, dans l'application Réglages, allez dans Déverrouillage par reconnaissance faciale et empreinte digitale et désactivez-la. Risque moyen, sauvegardez et supprimez vos données. Si vous vous estimez modérément à risque, faites une sauvegarde de toutes vos données sur un serveur en ligne comme l'iCloud d'Apple pour les iPhones ou Google One pour les Android. Puis, supprimez celles qui sont dans vos appareils avant d'aller aux États-Unis. Conseille M. Grossman. Vous pourrez ensuite restaurer vos données via l'Internet une fois passé la frontière. Pour sauvegarder les données d'un iPhone, ouvrez l'application Réglages, appuyez sur votre nom, puis sur iCloud et sélectionnez Sauvegarde iCloud. Activez Sauvegarder cet iPhone et appuyez sur Sauvegarder maintenant. Ensuite, pour effacer les données de votre iPhone, dans l'application Paramètres, allez dans le menu Général. Appuyez sur Transférer ou Réinitialer l'iPhone. Appuyez sur Effacer tout le contenu et les réglages, puis suivez les étapes. Avec un Android, ouvrez l'application Paramètres. Appuyez sur Google, puis sur Sauvegarde. Pour effacer vos données Android, la procédure dépend du modèle de votre téléphone, mais vous pouvez généralement rechercher « Rétablir la configuration d'usine ». Une fois rendu à destination, vous verrez une option pour restaurer l'appareil à partir d'une sauvegarde lorsque vous le configurerez. Vous pourrez alors saisir les identifiants de votre compte pour récupérer vos données. N'oubliez pas votre mot de passe. Risque élevé? Achetez un téléphone jetable. Si vous vous estimez à haut risque aux douanes américaines, le mieux est de laisser vos appareils personnels chez vous et d'emporter un téléphone jetable servant juste pour vos déplacements. Ainsi, un téléphone Android bon marché, équipé uniquement des applications nécessaires au voyage, Google Maps, Uber, etc., suffit amplement. On y mettra un compte de messagerie électronique créé exclusivement pour le voyage. Arrivé à destination, on se connectera à un forfait mobile temporaire sur un réseau étranger à l'aide d'une eSIM, une version numérique de la carte SIM, qui s'active grâce à Nomad, Airalo, JigSky ou une autre application. De retour chez soi, on copiera toutes ses photos de vacances depuis le téléphone jetable vers son bon téléphone. On dit téléphone jetable, mais ce n'est pas comme si c'était périssable. On peut le ranger dans un tiroir jusqu'au prochain voyage. C'était « Comment sécuriser son téléphone avant de passer la frontière ?» Un texte de Brian X. Chen du New York Times, paru le 12 mai 2025 dans La Presse.
La malédiction des étoiles Michelin, un texte d'Éric Desrosiers paru le 15 mai 2025 dans Le Devoir. Qu'est-ce qui peut y avoir de mieux que de se voir décerner une ou même plusieurs étoiles? Surtout quand ces étoiles sont celles du fameux guide Michelin et qu'on est restaurateur. Et pourtant, en prévision de l'entrée du Québec dans le Livre rouge, on a multiplié les histoires sur les efforts déployés pour le convaincre de s'intéresser à nous et sur les retombées espérées. Certains ont noté que l'arrivée de la Bible gourmande de la compagnie de pneus pouvait ne pas avoir que des côtés positifs. On dit craindre notamment que le processus d'évaluation fasse naître un climat malsain de compétition. On espère que la nouvelle clientèle, spécialement étrangère, attirée par une étoile, ne chassera pas la clientèle habituelle et fidèle. On ne voudrait pas ensuite que la peur de perdre ces précieuses étoiles étouffe la créativité et l'originalité de nos artistes de la table. La question ne pouvait pas ne pas finir par intéresser des experts patentés. Leur verdict est mitigé. Cela a même amené certains à parler du « côté sombre » de l'étoile ou d'une « malédiction des étoiles Michelin ». Et le gagnant est, grâce notamment aux plateformes numériques, les occasions de s'adonner à la critique culinaire et les lieux pour le faire n'ont jamais été aussi nombreux et à la portée de tous. Le guide Michelin semble pourtant avoir conservé une valeur spéciale, non seulement dans le cœur des professionnels de la restauration, mais également pour leur clientèle gourmande. Se voir décerner une étoile vaut aux restaurateurs, mais aussi à leur port d'attache, une publicité et une reconnaissance hors du commun, confirment les experts. Du jour au lendemain, le nombre de réservations augmente et les listes d'attente s'allongent. De nouveaux clients, notamment étrangers, inscrivent ces tables parmi leurs destinations à ne pas manquer. Les restaurateurs peuvent alors se permettre d'augmenter leurs prix sans risquer de réduire cette affluence. Lui-même primé d'un total de 32 étoiles pour ses différents restaurants, le célèbre grand chef français Joël Robuchon a dit, dans la revue Food and Wine en 2017, qu'une étoile augmentait le chiffre d'affaires de 20 %, 2 de 40 % et 3 de plus de 100 %. Cela dépend quand même de l'endroit où vous vous trouvez, admettait-on, les marchés de Las Vegas ou Londres n'offrant pas les mêmes possibilités que des villes moins fréquentées par les gens riches et célèbres. Un chercheur français qui s'est penché sur le cas de 172 restaurants étoilés, Olivier Gergaud, est arrivé à une estimation similaire au même moment. Il y était question d'une augmentation moyenne de revenus de 35 % la première année et de 80 % sur 3 ans pour une troisième étoile, à la faveur notamment d'une hausse immédiate des prix de l'ordre de 25 % à 30 %. Cette impressionnante augmentation de revenus ne se traduit toutefois pas par une hausse équivalente des profits, a constaté l'économiste français. La rentabilité commerciale des restaurants étoilés entre 2005 et 2008 ne dépassait pas, en moyenne, 2,65 % et était donc à peine supérieure à celle de 2,18 % de 54 000 établissements n'ayant pas l'honneur d'apparaître dans le fameux guide rouge. Une enquête de la radio-télévision publique francophone belge est arrivée plus récemment à un résultat plus sombre encore. Sur 20 restaurants belges étoilés en 2017, la moitié était dans le rouge l'année suivante et semblait condamnée à le rester l'année d'après. Des étoiles dans les yeux. C'est qu'une étoile Michelin vient avec des attentes en matière de niveau et de style de service offert, explique-t-on. Sensible à ces standards plus élevés de la clientèle, surtout la nouvelle, les heureux lauréats sont portés à investir dans le décor et les cuisines de leurs restaurants, à se mettre en quête de produits plus rares et raffinés, ainsi qu'à engager plus de personnel. Il y a une dizaine d'années, la valeur moyenne des actifs totaux des restaurants analysés par Olivier Gergaud s'élevait ainsi à 207 000 euros pour les établissements qui avaient été complètement ignorés par le guide Michelin. Elle atteignait le double, 410 000 euros, pour ceux qui y apparaissaient simplement ou qui avaient une étoile, et était 7 fois plus élevé, 1,4 million d'euros, pour les doubles et les triples étoilés. Les effectifs étaient, quant à eux, de 2 à 3 fois plus importants dans les établissements Michelin. Les étoiles n'accrochent pas seulement le regard de la clientèle, a expliqué en 2024 un expert américain en gestion, Daniel Sands, dans une étude sur les restaurants étoilés de New York. Devenus des stars, leurs chefs réclament des salaires de stars et sont de plus en plus distraits par toutes sortes d'autres activités quand ils ne rendent pas carrément leur tablier pour aller ouvrir leur propre restaurant. Le reste du personnel se retrouve aussi en meilleure position pour négocier de meilleures conditions de travail. Ils ne sont pas seuls à chercher à en profiter. Les fournisseurs se mettent aussi à être plus gourmands en échange de leurs produits, à l'instar des propriétaires d'immeubles qui ne manquent pas cette occasion en or d'augmenter leur loyer. Toujours prête à copier les formules gagnantes, la concurrence fait également tout ce qu'elle peut pour reproduire le succès des restaurants étoilés et attirer ne serait-ce qu'une partie de leur clientèle. Ce cercle vicieux se révèle souvent difficile à briser parce qu'aussitôt étoilés, les restaurateurs se mettent à avoir peur qu'on leur enlève leurs étoiles. La joie de la reconnaissance se voit ainsi rapidement remplacée par la pression de ne pas perdre la faveur des évaluateurs du guide Michelin qui reviennent en secret chaque année. Les restaurateurs n'ont pas tort parce que si l'ascension est fulgurante quand on est hissé au firmament du guide Michelin, la chute peut être tout aussi brutale. La perte d'une étoile fait passer leur rentabilité d'un profit moyen de 3,3% à une perte de presque 2%, a observé Olivier Gergaud. Les restaurateurs ont alors du mal à se résoudre à revenir à un train de vie plus modeste, constate la recherche sur les restaurants de New York. C'en est au point que les restaurants étoilés présentent un plus grand risque de faillite que les autres et que 40% de ceux qui avaient reçu l'insigne honneur entre 2005 et 2014 avaient fermé leurs portes à la fin de 2019. C'est peut-être ce qui a fait dire, les mois derniers, sur les ondes de Radio-Canada, à Antonin Mousseau-Rivard, chef du restaurant montréalais Le Mousseau, une étoile peut-être, sûrement, en fait, mais pas plus. C'était « La malédiction des étoiles Michelin », un texte d'Éric Desrosiers paru le 15 mai 2025 dans Le Devoir.